Vous écoutez RTL.
Merci d'écouter RTL. Excellente journée à vous tous. Qui nous êtes fidèles, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans un instant, coup de cœur de Bernard Lehu pour le roman 17 ans d'Éric Fotorino. Nos recommandations également au rayon bande dessinée. Arnaud Mulpa nous conseillera Charlotte Impératrice, une réussite. C'est la bande dessinée RTL du mois d'août. Et puis à 4 jours de la rentrée scolaire, Laurent Marsic nous proposera lui une sélection de livres jeunesse qui dédramatisent le retour à l'école. On n'oubliera pas nos express du jour préparés par Aymeric Partono. Et à la télévision ce soir, le magazine Complément d'enquête s'intéresse à Catherine Deneuve, la demoiselle insoumise, à voir sur France 2 à 23h15. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
De nombreux romans de la rentrée littéraire sont consacrés à la famille, ses failles, ses secrets, ses drames, ses joies aussi parfois. L'un des plus réussis, selon vous, est le livre d'Éric Fotorino. Il a pour titre 17 ans et il est publié chez Gallimard.
Et l'ancien directeur du journal Le Monde, patron aujourd'hui de l'hebdomadaire Le 1, nous a proposé d'émouvants romans consacrés à son histoire familiale, pas banale, il est vrai. Un père biologique, disparu dès sa naissance, et un père adoptif qu'il a aimé et éduqué. Aujourd'hui, c'est en nous racontant la femme qui a aimé ces deux hommes, sa mère, Lina, qu'Éric Fotorino nous bouleverse.
Toute cette histoire que j'écris depuis longtemps autour de mes pères, si je remontais encore le malaise ou le mal-être, il commençait dans ses premiers jours, dans ses premiers temps, avec cette femme que je n'ai pas connue d'abord. C'est ce qu'on appelle une fille mère, donc dans le vocabulaire de cette époque, c'est pas loin d'une prostituée. Donc, c'est
17 ans,
17
dans
ans,
le titre.
Elle est mineure, elle est très seule, elle est rejetée, elle est même exilée dans un petit village des Alpes-Maritimes parce qu'elle a fauté, comme on dit, avec un jeune homme qui est un étudiant en médecine, on pourrait dire tout va bien, il est juif et il est marocain. Donc on ne veut pas voir de ça chez nous, comme on dit, et sa mère l'a fait partir de Bordeaux où elles habitent pour précisément que la honte de ce ventre qui s'arrondit ne vienne pas sous les yeux des voisins, sous les yeux des gens dont on se dit que c'est important la vie des gens.
Et à sa naissance, Éric Fotorino est confié à une nourrice. Il ne retrouvera sa mère que bien plus tard. Une relation qui restera bancale, un duo maladroit qui éprouvera toujours des difficultés à s'aimer et plus encore à se le dire. Ce désamour tenace connaît son point d'orgue quand, à 13 ans, Éric, seul dans sa chambre, écrit cette phrase absolument terrible « Je suis le fils d'une pute qu'un salaud de juif a tringlé avant de se tirer ».
C'est une phrase que je traîne depuis presque 50 ans. Je crois que je suis devenu écrivain ce jour-là, sans le savoir. Parce que j'ai pris dans la figure la force des mots. C'était des mots obscènes, c'était des mots horribles. Je ne dis pas que je ne les pensais pas. Si je les ai écrits, il y avait quelque chose en moi qui les pensait. Mais dès qu'ils sont sortis de moi, je les ai regardés, effrayés et effarés. Et vous vous rendez compte que j'étais tellement fasciné par cette phrase que je n'ai pas entendu ma mère arriver, je ne l'ai pas entendu, j'étais dans la pénombre, allumer ma lampe, et elle a lu. Elle est partie, on n'en a jamais parlé, jamais.
Et cette feuille, qu'en avez-vous fait ?
Je l'ai jetée, mais j'ai le double dans ma tête. Je ne crois pas qu'on efface, rien. Mais en revanche, j'ai voulu vérifier que la pute n'était pas une pute, que ce salaud de juif n'était pas un salaud de juif. Et ça m'a pris 30 ans de ma vie, et je crains que ce ne soit pas fini. Je veux dire par là que il y a toujours à chaque fois que j'écris un texte sur les miens, peut-être pour vérifier qu'ils sont bien les miens, parce que les miens justement n'étaient pas tant les miens que ça, ça soulève d'autres questions qui sont là et qui m'obsèdent.
Et alors justement, pendant l'écriture de 17 ans, la mère d'Éric Fotorino lui fera une nouvelle et incroyable révélation sur son passé familial, dont nous ne dirons rien ici. De toute façon, le lecteur le découvre cela très très vite, dès le début du livre, mais on vous laisse découvrir cette révélation.
On va de choc émotif en choc émotif, parce que ces confidences d'Éric Fotorino sont incroyables. Alors quoi qu'il en soit, en écoutant Fotorino, on se dit que ça n'a pas dû être toujours facile d'écrire ce livre.
Oui, il l'avoue, il le dit lui-même, c'est le livre qu'il a eu le plus de mal, de difficultés à écrire. Et c'est le livre avec lequel il a mis le plus de temps, d'ailleurs, à écrire. Mais ce récit sincère et sensible tente, au final, de cautériser les malentendus entre le fils et sa mère, Lina. Lina vit toujours, elle a donc lu 17 ans.
Elle m'a dit deux choses. Après qu'elle a lu, qu'elle a beaucoup pleuré, qu'elle a... Bon, c'était quand même rude, parce que ça mettait avec des mots le désamour, le non-amour, et qu'il fallait aller jusqu'au bout pour voir, pour elle, que finalement, ce que ressent le personnage, qui est un double de moi, mais qui n'est pas complètement moi, finalement, allait arriver à des sentiments meilleurs. Donc, elle m'a dit, je te remercie de l'avoir écrit de mon vivant. Voilà. Et l'autre chose qu'elle m'a dite, c'est les deux choses fortes, c'est ça. Et une autre, qui, elle m'a dit, tu vois, tu me fais parler, tu me fais dire des choses que je n'ai pas dites, mais je me reconnais dans ce que dit cette Lina, qui est moi sans être moi.
Alors, quant à Eric Fotorino, son livre l'a-t-il aidé, lui, à mieux aimer sa mère?
Bien sûr, ce livre contribue à ce dégel, à faire tomber des barrières. Mais vous savez, un livre n'est pas un tour de magie, c'est-à-dire que voilà, il sera là entre nous, il pourra nous relier d'une autre manière, mais je suis toujours plus à l'aise à exprimer des sentiments sur le papier qu'à les exprimer quand elle est en face de moi.
L'une des plus belles phrases du livre, c'est « Je sens battre ton cœur dans ma poitrine ». C'est ce que dit le fils quand il prend dans ses bras sa mère. Est-ce que c'est un geste que vous avez été capable de faire avec votre mère ?
Non, je n'ai pas su le faire.
Oui, mais vous l'avez écrit, c'est peut-être la même chose.
Alors oui, mais est-ce que ça suffit ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que le fait de l'avoir écrit me laisse penser que d'une certaine manière, je l'ai fait.
La puissance, les pouvoirs, mais aussi les limites de la littérature. Eric Fotorino signe 17 ans chez Gallimard, le long et beau chemin de retrouvailles entre un fils et une mère pour qui l'amour n'allait pas de soi.
Entretien très émouvant. Merci beaucoup Bernard Lehu. Dans quelques instants, on va s'intéresser à la télévision et à ce que nous avons regardé hier avec Médiamétrie et Isabelle Morini-Bosque. À tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Isabelle Morini-Bosque, avec ses doigts de fée, ses lunettes, bien entendu, spatiales et intemporelles.
Non, elle n'a pas ses lunettes, là, ce matin.
Non, mais vous savez bien qu'elle ajuste toujours ses yeux, c'est ce qui fait son grand talent. On va nous donner les résultats d'audience de la veille avec Médiamétrie.
À votre avis, je suis ravie, décidément, depuis le début de la semaine, je suis contente. Parce que qui est en tête? C'est Alex Hugo. 4 600 000 téléspectateurs et 23% du public sur France 2. Mm-hmm. C'est mieux que bien. Et Esprit Criminel est également un peu en hausse, en deuxième position sur TF1. 4 100 000 téléspectateurs devant les inédits. Et alors, troisième, c'est M6 avec Zone Interdite. Côté TNT, W9 est en tête avec le Marrakech du Rire. 830 000 téléspectateurs. C'était donc la rediffusion de ce qui est passé avant les vacances sur M6. Et alors, les feuilletons, les feuilletons, ça se maintient.
Oui.
C'était 4 millions lundi pour Un si grand soleil, 3 900 000 hier, 200 000 de plus par rapport à avant-hier. Plus belle la vie est un tout petit peu en baisse et Scène de ménage fait exactement le même score que depuis lundi. C'est donc très bien.
Vous savez que vous me causez bien du souci parce que j'enregistre très régulièrement les émissions que vous recommandez si je ne peux pas les voir en direct. Et là, en ce moment, j'ai une ADSL qui est un peu faiblarde avec ma box. Ce qui fait que je viens de découvrir hier soir. Je voulais regarder la télé, pas du tout, j'étais en train d'enregistrer un truc que vous aviez demandé de regarder et dans ce cas-là, vous ne pouvez plus accéder à votre télévision.
Voilà. Vous savez quoi, je vais tous les matins, je vais venir vous raconter l'émission comme ça.
Non mais enfin, ça me cause bien du souci. Allez, nos express.
Les express LVT.
Nos express du jour préparés par Aymeric Partonneau de la rédaction d'RTL.fr. Bonjour Aymeric.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On commence avec deux infos cinéma, un coyote et un dindon.
Oui, alors Warner vient de mettre en chantier un film conseillé au coyote, vous savez, l'ennemi juré de Voilà. Alors, c'est le personnage des Looney Tunes que vous connaissez, qui se court après depuis des décennies, les mêmes que Bugs Bunny, Daffy Duck, etc. On sait encore très peu de choses sur le film. On ne sait pas, par exemple, si ce sera un film d'animation pure ou s'il y aura deux vrais acteurs et un coyote en image de synthèse, espèce de mélange très populaire en ce moment au cinéma.
Voilà pour le coyote. Dindon.
Alors le dindon, il arrive. Hier a commencé le tournage du film Le Dindon, réalisé par Jalil Lespert, qui retrouve pour l'occasion Guillaume Gallienne, 4 ans après son Yves Saint-Laurent. Oui. Le dindon, c'est l'adaptation de la célèbre pièce de théâtre de Georges Feydeau. Danny Boone fait partie du casting de ce vaudeville amoureux.
Bon, tout ça est assez amusant. On quitte le grand écran pour le petit maintenant.
Oui, M6 vient tout juste de débuter le tournage de la 13e saison de La France a un incroyable talent avec un jury en partie renouvelé après le départ l'an dernier de Gilbert Rozon puis de Kamel Wally. Pour les remplacer, la chaîne a su convaincre Marianne James, ex-présentatrice des Prodiges sur France 2 et de l'Eurovision, et une star internationale du stand-up, Sugar Sammy, en exclusivité sur RTL. Bien sûr, Laurent Marsic a pu rencontrer sur le plateau plateau. Ce nouveau couple infernal qui ne compte pas avoir sa langue dans sa poche.
Effectivement, je reviens sur M6. C'est un petit peu bizarre. Et en même temps, c'est un petit peu ma maison. Ben, c'est un petit peu professeur Marianne. Moi, j'aime bien donner des leçons à la terre entière. Et puis, je reste spectatrice. Téléspectatrice, mais surtout spectatrice. Donc, c'est vraiment plaisant à faire. Il y a des gens qui nous laissent par terre, quoi. Il y a des gens qui nous font rêver. Il y a ceux qui nous font pleurer. Donc, écoutez, Hélène, on sait qu'elle pleurait beaucoup. Eh ben, bonne nouvelle, moi aussi. Voilà. Donc, on pleure à deux. Je vois pas pourquoi je m'empêcherais d'avoir des émotions parce qu'Hélène pleure beaucoup. Donc, on pleure deux fois plus. On va se faire bien moquer. Et c'est pas grave. Nous, on sait qu'on vit un moment qui nous soulève le cœur et les émotions. Et moi, par exemple, je pleure beaucoup de joie.
C'est un rôle très prestigieux. Pour moi, c'était un honneur de faire partie de cette équipe, de ce groupe. Même si je suis nouveau en France, je peux juger le métier comme tel. Donc, quand les humoristes se présentent, c'est très précis. Quand il y a un numéro qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, j'ai l'instinct de savoir pourquoi ça fonctionne et où ça n'a pas fonctionné grâce à l'expérience que j'ai. Donc, je pense que c'est ma contribution et c'est ce qu'on cherche aussi, une variété, une variance dans les jurés. Pour moi, je pense que je regarde ça avec exigence. Alors, cette exigence, pour moi, est sévère, mais elle est juste.
Voilà, alors l'Hélène qui pleure tout le temps, c'est Hélène Ségara.
Oui.
Et on retrouvera La France a un incroyable talent sur M6 à la fin de l'année 2018.
Ouais, alors, il va être méchant, Samy,
oui.
Là
il est dur.
Il est dur.
Ah ouais, il
est
faut qu'il soit bon. Gnangnan quand même. Hein,
c'est l'école Rosan, il est très dur.
Très bien, j'aime
ça. Mais il est
ça.
Très bon.
On continue avec de la musique, un record.
Oui, jusqu'à présent, le clip le plus vu en 24 heures sur la plateforme YouTube, c'était ça. Voilà, c'est le premier single du dernier album de Taylor Swift, Reputation.
Elle n'est pas très habillée, c'est ça, il y a non.
Si, elle était habillée, avec des serpents partout pour l'habiller.
Oh, ouais,
et bien, l'américaine vient de céder sa place à un boys band sud-coréen, BTS. BTS, BTS, hein, rien à voir avec le diplôme français. Ce sont 7 jeunes hommes. Ils chantent, ils dansent avec une précision diabolique. Et surtout, bah, ils sont très beaux. Hein. C'est l'une des clés du succès de la pop coréenne, la K-pop. 36 millions de vues en 24 heures et 107 millions ce matin. Ils ont vendu 380 000 places de concert en 5 minutes top chrono. C'est le phénomène est complètement mondial, en Asie bien sûr, mais aussi en Amérique du Nord, en Europe et en France. Ils sont complètement incontournables.
Alors, j'imagine qu'on peut voir ce fameux clip sur RTL.fr.
Bien sûr, pour les voir s'agiter en couleur, c'est super.
Vous voulez ajouter quelque chose? Non.
Alors, on termine avec une bonne nouvelle, un mariage.
Oui, entre le chanteur Neil Young, 72 ans, et l'actrice américaine Daryl Hannah, 57 ans, qu'on connaît des films Blade Runner, oui. Kill Bill, ou plus récemment dans la série Sense8 et Splash, absolument. Ils se sont mariés ce week-end, en toute discrétion, en Californie.
Avec Glissé un petit Nalium comme ça.
Oui, voilà. Heart of Gold.
C'est très plaisant.
Toute notre jeunesse.
Merci, oui, en effet. Merci beaucoup, Aymeric Partonneau. Allez, on va parler bande dessinée à présent avec vous, Arnaud Mulpa. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On va faire ce matin avec vous un détour par le Second Empire, puisque la bande dessinée RTL du mois d'août récompense un très bel album. Il s'intitule Charlotte Impératrice. Il est signé de deux grands noms de la BD actuelle, Fabien Nury et Mathieu Bonhomme.
Oui, l'histoire à peine romancée de Marie, Charlotte, Amélie, Auguste, Victoire, Clémentine, Léopoldine de Saxe-Cobourg-Gotha. Princesse de Belgique, jeune fille bien née, donc un beau jour de 1840. Mmh. Charlotte aime l'équitation, la musique, Mozart, Schubert, Bach, mais comme toutes les princesses, elle n'est pas totalement libre de son destin. Il faut faire avec le protocole et les enjeux diplomatiques du moment. À 16 ans, elle semble promise à Pedro, Pierre V du Portugal. À Lisbonne, dit-on, on négocie déjà la dot. Mais le père de Charlotte, le roi Léopold Ier de Belgique, a pour sa fille d'autres vues, un certain Maximilien de Habsbourg. Mathieu Bonhomme est le dessinateur de l'histoire.
La couronne récente de Belgique avait besoin de se faire une place sur l'échiquier international et comme de tout temps, un mariage arrangé facilitait évidemment bien les affaires de la Belgique et donc le roi a eu l'aubaine de marier sa fille à un Habsbourg qui était la plus grande famille régnante européenne de l'époque. Pourvu qu'elle soit amoureuse et qu'il s'appelle Habsbourg, après le reste on verra plus tard. Et effectivement, le destin derrière est pas joli joli, mais ça fait partie de la vie de princesse, quoi. D'abord l'intérêt, et ensuite on verra.
Maximilien est le frère cadet des Habsbourg. Il n'a pas le pouvoir, mais il a de l'humour. Et ce que Charlotte ignore, c'est que c'est derrière son allure impeccable, il a aussi la réputation d'être un sacré fêtard qui court le cotillon et taquine la bouteille, comme l'écrit le scénariste Fabien Nury. Le mariage est célébré en juillet 1857 à Bruxelles. Il donne lieu dans l'album à une planche sublime où l'on voit la princesse radieuse dans son carrosse, mais où l'on devine aussi déjà l'inquiétude de ses proches.
Bon, le pire n'est jamais certain.
Non, dans un premier temps d'ailleurs, tout se passe plutôt bien. Maximilien est nommé gouverneur de Lombardie-Vénétie. C'est son heure de gloire. Le couple mène la grande vie à Venise, à la Scala de Milan ou dans leur palais de Trieste, jusqu'à ce jour de 1859. La bataille de Solferino, l'armée de Maximilien est battue par les troupes de Napoléon. Pour l'archiduc, c'est un déshonneur. Il n'a plus goût à rien, renoue avec ses vieux démons et Charlotte se retrouve de plus en plus seule. Au fil des 70 pages, on va suivre l'itinéraire de cette jeune femme très touchante, ballottée de toutes parts, qui va tenter de s'affirmer pour reprendre son destin en main. Je ne vous raconte pas la suite, il y aura même trois autres tomes. J'espère. Mais pour leur première collaboration, Fabien Nury et Mathieu Bonhomme ont placé le degré d'exigence très haut. Tous les ingrédients sont là, une grande fresque romanesque, une pointe d'humour, un découpage millimétré, il n'y a vraiment pas une case de trop. Et puis sur la forme, alors on est ébloui par les planches de Mathieu Bonhomme qui confirme qu'il est vraiment l'un de nos meilleurs dessinateurs. Il alterne les vues panoramiques avec des décors somptueux et des plans beaucoup plus resserrés sur parfois juste un détail. Un nœud dans les cheveux de Charlotte, un papillon, un regard au bord des larmes. Mathieu Bonhomme s'est pourtant demandé s'il serait à la hauteur du scénario de Fabien Nury.
C'est vrai que ce projet, quand il me l'a proposé, c'est comme si on me proposait de gravir l'Everest d'un seul coup, quoi. Et c'était assez énorme, surtout sur ce qu'implique un univers Second Empire royal. Donc c'est vrai qu'il y a du faste, il y a des décors, il y a des robes, il y a des uniformes. C'est un gros, gros travail. Et c'est parfois difficile, mais c'est inhérent au récit et donc c'est le récit qui guide. Donc il ne faut pas économiser ses moyens. Et là, pour le coup, je crois que je n'ai pas trop économisé mes moyens sur certaines images, mais voilà, le jeu en valait la chandelle. Je pense que c'était important de montrer que cette princesse, elle est dans un univers magnifique, riche, précieux. Il y a tout autour d'elle ce faste, cet or, ses servants. Ça participe de ce personnage. Je trouve que ça va avec le personnage.
Voilà, Charlotte Impératrice, l'un des très beaux albums de cette rentrée, peut-être même de cette année. C'est en tout cas la bande dessinée RTL du mois d'août, l'éditeur d'Argo.
Merci. J'ai été émerveillée.
Oui, c'est magnifique. Enfin, moi, je l'ai feuilleté, là, c'est absolument extraordinaire. On est tous...
Tourne sous la rage, tourne à table.
C'est
impérial.
Ça n'est pas par hasard, c'est impérial. Alors, vous aimez Secret d'Histoire, vous n'avez donc pas loupé celui que Stéphane Bern consacre ce soir sur la 2 à la très catholique Marie Stuart.
C'est à moi que vous parlez.
Oui.
Oui. Marie Stuart.
Vous êtes bien Isabelle Morini-Bosque. Vous traitez bien de l'actualité télévisée.
J'étais encore dans Charlotte et Maximilien, j'adore. Oui, reine d'Écosse et de France, Marie Stuart, voilà, qui a tué le malheur comme le paratonnerre attire la foudre. 6 jours après sa naissance, son père, le roi d'Écosse, meurt brusquement. C'est le début d'une vie heurtée que Stéphane Bern, c'est pour ça que je l'ai gardé, résume très très bien.
C'est en France qu'elle va passer les premières années de sa vie, car sa mère, Marie de Guise, veut la protéger des convoitises de l'Angleterre. À 15 ans, après la mort d'Henri II, son fils François monte sur le trône. Ce jeune monarque fragile épouse Marie Stuart, qui devient reine de France, elle qui est déjà reine d'Écosse. Mais son jeune roi adoré meurt, le malheur, encore. Elle rentre au pays de ses ancêtres. Elle épouse son cousin, Lord Darnley, mais son mari meurt assassiné, le malheur, toujours. On utilise ce drame pour l'accuser de complicité. Elle fait face. Elle va jusqu'à épouser Lord Boswell, soupçonné d'avoir tué Darnley. Enfin, vient le chemin de croix. Elle perd son trône de reine d'Écosse et sa cousine, Elisabeth Ière, la considère comme une rivale. Elle fait arrêter Marie Stuart, qui va connaître 19 ans de captivité que la hache du bourreau royal va brutalement interrompre. Marie Stuart a alors 44 ans.
Bah dites donc, mais quelle vie.
Absolument. Dans Secret d'Histoire, on apprend toujours des détails ne servant à rien au quotidien, mais que savoir, j'aime bien. Vous savez combien de mesurer la très belle Marie Stuart à une époque où 1m50 était déjà un grand format pour une femme.
Je n'ai pas la moindre idée.
1m80. Oh. Je vous assure, c'est quasiment du gigantisme à l'époque. Sa mort en a fait une légende et un martyr. Le bourreau ayant dû s'y reprendre à 3 fois. C'est dire si c'était vraiment une femme de tête.
Jeu de mots. Vous restez ensuite sur la 2 pour un complément d'enquête consacré à Catherine Deneuve.
23h15. Catherine Deneuve n'est pas mon actrice préférée. Complément d'enquête n'est pas mon émission favorite. J'ai pourtant adoré ce portrait dont Catherine Deneuve ne voulait pas.
Oui, bonjour, c'est Catherine Deneuve au téléphone. Je vous appelle parce que je sais que vous avez cherché à contacter des gens proches de moi pour un portrait pour France 2. Je suis désolée, mais c'est un genre que j'apprécie pas du tout. Moi, les portraits, je trouve ça un peu sinistre. Mais voilà, je vous fais des amitiés quand même. Au revoir.
Voilà, l'équipe, c'est absolument. C'est l'équipe s'est obstinée, elle a eu raison, c'est un très beau portrait, au contour précis qui montre une femme douée par l'amitié qui se prouve, douée pour la vie, douée pour un métier qu'elle ne voulait pas faire, mais aussi un peu procédurière, dépensière. Elle a par exemple dû mettre en vente sa splendide propriété normande que j'aurais bien achetée. Tiens, mais 4 millions d'euros, non. Les témoignages sont géniaux, les archives aussi, la voici face à Johnny dans Les Parisiennes.
Ça ira ?
Formidable.
Je suis si contente d'être utile à quelque chose. Ça m'arrive jamais.
C'est tout de même pas vous qui allez me remercier.
Si.
Voilà. Johnny était fou d'elle, qui était alors elle qui était avec Vadim, de 15 ans son aîné, lui donne un fils, mais ne l'épouse pas. Celui qu'elle épouse en 65 sur un coup de tête, coup de foot, c'est le photographe anglais David Bailey.
Quand je l'ai vue, j'ai dit, elle est trop petite pour moi, parce que moi je ne sortais qu'avec des top modèles. Elle était très française, très bourgeoise, et moi très politiquement incorrecte. Et le mélange des deux opposés a bien marché. C'était il y a au moins 50 ans. Je suis étonné qu'on soit encore vivants tous les deux. Mon témoin de mariage était Mick Jagger, et pour elle c'était sa sœur. Mais elle est arrivée en retard. J'étais en pull et Catherine portait une robe noire. Elle fumait tout le temps. L'officier d'état civil a dû lui demander d'écraser sa cigarette. Elle avait un bon sens de l'humour. Elle aimait les blagues salaces. Elle était marrante. On s'entendait bien quand on était ensemble. Mais on ne l'était pas souvent. C'est pour ça que ça n'a pas marché.
Vous savez que vous êtes le seul homme qu'elle a épousé ?
Et je crois que ça lui a servi de leçon.
Il est très drôle. Oui, son témoin, c'était sa sœur Françoise d'Orléac, avec qui elle pratiquait l'humour vache, comme là, sur le tournage des Demoiselles de Rochefort. Françoise note que Catherine, qui vient d'avoir un enfant, a pris de la poitrine, devenant, si j'ose dire, un gros bonnet.
Ma sœur a sa poitrine qui gonfle de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe ? Ne rêve pas, toi, ça ne risque pas de t'arriver. Oh, ben moi, j'ai pas l'enfant aussi. J'étais pas prête d'en avoir non plus avec la
C'est
ça. Oh, elle est dégueulasse, alors.
Est-ce que vous êtes jalouse l'une de l'autre, Françoise ?
Non, je pense pas.
Oh, non, moi, absolument pas.
Dis donc, c'est pas gentil ce que tu me dis.
Voilà, rien n'est éludé, tout est évoqué, y compris les nombreux procès intentés par Catherine Deneuve. Elle en a gagné une soixantaine. On écoute Antoine Debecq, co-auteur d'une bio sur François Truffaut. Lui aussi fout de Catherine Deneuve.
On peut pas trop développer ça parce qu'elle va remettre un procès aux fesses. Hein. Elle a fait un procès au livre. C'est une histoire publique. Hein. Mais la loi française protège très fort la vie privée. Elle avait demandé 250 000 francs à Gallimard, l'éditeur, mais aussi à tous les journaux qui avaient reproduit des extraits sur cette histoire. En tout, elle demandait 1,5 million, quoi. Et elle a rien eu. Mais il y a à peu près 3 pages du livre qui ont été enlevées à sa demande, hein. Donc faites attention.
Voilà, moi j'ai vécu la même expérience à BSD avec une bio de Vadim. Voilà. Ne loupez pas l'image, il y a des images formidables. Oui. La tête de Catherine Deneuve devant son buste de Marianne que manifestement elle n'aime pas du tout. Sur l'image, rien ne se dit, tout se lit. Vraiment, c'est un complément d'enquête réussi. C'est ce soir à 23h15 sur la 2.
Je vais encore bloquer ma boîte ADSL hein, puisque oui, je vais l'enregistrer, donc je ne pourrai pas regarder la télé, mais enfin ça sera plus
on
tard.
On va vous passer la cassette vidéo.
Dans un instant, on trouve Laurent Marcy.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Dois-je vous rappeler que nous sommes à J-4 avant la rentrée scolaire, moment d'angoisse pour les enfants et même pour les parents. Alors, contre les mots, M-A-U-X, hein, d'angoisse, nous avons un remède avec des mots, M-O-T-C-S, vous l'avez bien compris. Bonjour Laurent Marcic.
Bonjour.
Vous êtes venu avec une sélection de livres pour se préparer au grand saut et rendre ce moment moins douloureux et plus festif.
Bah oui Yves, les amis, vous qui nous écoutez, souvenez-vous de ce dernier soir avant le grand jour. Voilà des semaines qu'on vous explique. Ça va être génial mon chéri, t'es un grand maintenant, tu vas voir l'école. Sauf que dans la tête des petits-enfants en général, ça sonne comme ça. Une boule au ventre, une angoisse qui monte, celle de la séparation, place à l'ordre et aux ordres, affronter seuls les premiers dangers de la cour de récré, sans la présence rassurante d'un papa ou d'une maman. Mais pareil qu'il n'y aurait pas que les enfants qui angoissent. Dans l'école fait sa rentrée d'Adam Rex et Christian Robinson, aux éditions Little Urban, c'est l'école qui angoisse. Une école toute neuve, construite pendant l'été. Extrait, ils arrivèrent un matin, les enfants, ils étaient bien plus nombreux que l'école ne les avait imaginés. Ils étaient partout, dans les moindres recoins, mais surtout, il y avait ceux qui n'aiment pas l'école. « Elle est nulle, je déteste l'école !» Il y avait même une petite fille qui refusait d'y rentrer et sa mère était obligée de la porter. L'école se dit alors qu'elle devait être vraiment horrible. Au fil des pages, l'école découvre aussi l'école, les enfants, elle apprend avec eux parce que les murs ont des oreilles. C'est une bonne façon d'apprivoiser un nouveau lieu. Le lien que tisse l'école avec les enfants n'appartient qu'à eux. Ça devient le jardin secret des enfants. C'est pour ça que quand ils rentrent de l'école et que vous leur demandez « Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui à l'école ?» Bon, rien. L'école fait sa rentrée, c'est chez Little Urban. Le prix 14,50 €.
Hein. L'école, c'est aussi la vie en communauté. Concept pas évident à comprendre pour un enfant.
Hein. Exactement. Pour certains, comme Aldebert, le chanteur pour enfants, le Benabar des Loupiaux, la rentrée, ça sonne comme ceci.
Je trouve pas la deuxième chaussette, en plus on a piscine. J'ai coincé ma baguette et brûlé mes tartines. Si je simulais un rhume pour m'acquitter de ce fardeau, tout en qu'on a mis une enclume dans mon tout petit sac à dos, j'ai perdu mes pinceaux.
Les premiers jours peuvent être difficiles parce qu'il y a toujours un méchant dans les classes, ah oui. Celui que la nature a doté de muscles bien plus gros que les vôtres et qui mesure, allez comprendre pourquoi, 3 têtes de plus que vous. Et quand on s'y frotte, en général, on se prend un.
Il a un malaise, le hobbit.
Lui, c'est Kevin, cheveux longs, t-shirt tête de mort, c'est la terreur de l'école d'Aldebert. Aldebert, le manieur meneur de mots, hein, comme personne, qui a décidé de décliner en livre CD certaines de ses chansons. Voici donc La rentrée des glaces, une histoire, un CD, une chanson. Dans l'école d'Aldebert, il y a Kevin, mais il y a aussi Matisse, un rouquin, un nouveau, dont le papa est marchand de glace, d'où La rentrée des glaces. Les glaces, c'est le péché mignon d'Aldebert. C'est une histoire d'amitié où le plus faible peut aussi fondre l'armure en double béton armé du gros méchant de la classe et découvrir que derrière, c'est important, il y a sans doute un petit garçon comme les autres. La rentrée des glaces d'Aldebert, c'est chez Hachette Enfant, livre CD, une histoire, une chanson. La rentrée, c'est aussi ce moment d'angoisse où, à cause de ces trop longues vacances, on ne se souvient plus bien de ce que font 2 plus 2,
bah oui.
Où l'imparfait se mélange au passé simple et où on finit par dire... Voici donc une petite collection de livres plutôt marrantes, façon Madame Monsieur, baptisée Les Conjugouillons. On doit ça à Claudine Desmarteaux, aux éditions Père Castor Flammarion. Un livre, une histoire. Chaque personnage incarne un temps. On va prendre celle-là. Ça s'appelle J'écrivis un chef-d'œuvre. Lui s'appelle Passé simple. Nous voici le jour où il écrivit donc un chef-d'œuvre. Récit au passé simple quand déboule dans l'histoire Monsieur présent et Monsieur imparfait. Extrait. On peut te donner notre avis, dit Monsieur présent. Ton dernier roman, il valait peau de balle, mais tu ne voulais pas l'admettre, enchérissait Monsieur imparfait. Ce à quoi Monsieur passé simple répondit, tu ne me convainquis pas. C'est jeu de temps et savoureux. C'est une petite série de livres à collectionner. 5 euros, c'est pas cher du tout. C'est un bon moyen pour se remettre vite à la page avant la rentrée. Et il n'y a pas d'âge pour ça, je vais vous dire. Le temps, justement, le temps qui passe, ce sera mon dernier conseil pour discuter de l'école. Merveilleuse école, c'est au seuil jeunesse. Une page, une école. Celle de 2018, c'est celle d'un petit panda qui discute avec son papy. Page suivante, la même chose, mais au temps du papy. Pour les enfants d'aujourd'hui, la rentrée c'est lundi, mais pour papy c'était en octobre. Et les garçons étaient séparés des filles. La preuve, page suivante, un dessin, etc. L'école de papy, c'est le livre pour comparer les écoles. Les époques, c'est une façon ludique pour se dire que finalement, bah, elle n'a pas si mal évolué que ça, notre école. Merveilleuse école d'Hélène Lasserre et Gilles Bonotto. Le prix, 12,90 €. C'est joli. Ouais.
C'est la musique du petit Nicolas, ça ?
Ah ben voilà.
Bon, mes enfants, je crois qu'on a fait un tour de la situation assez complet, donc on va marquer une petite pause.
Toutes les références des livres que vient de citer Laurent sur RTL.fr.
Exactement.
Merci Bernard.
Merci Bernard. Dans quelques instants, on se retrouve pour accueillir notre camarade Julien Courbet.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Il a un malaise, le Hobbit.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Non mais attendez, c'est Kevin.
Non mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Il a un malaise, le Hobbit.
Franchement. Vous savez qu'on doit, passer la parole à Monsieur Julien. Oui,
vous allez surtout me parler différemment, je suis pour un petit peu de fantaisie le matin.
Oui, mais il y a des limites.
Mais me faire insulter comme ça en public et me faire traiter de hobbit, s'il vous plaît. Maintenant, bon, faites ce que vous avez à faire, je ferai mon métier après.
Ouais, avec le courage qui me caractérise, ce sont les fantaisies de Raphaël Nivoy qui réalise cette émission. Je prends sur moi.
Ah bon, c'est donc fini, donc d'accord, je pensais qu'il y avait autre chose qui allait arriver derrière, donc ça a été envoyé comme ça.
Non mais je vous jure, c'est stupéfiant, pas. Oui, je ne sais pas quoi dire.
Allé pour prendre des risques, amusez-vous demain à le passer pendant l'interview de Madame Martichoux.
Oui, ça serait.
Si elle reçoit un grand homme politique, tout d'un coup, il lui dit...
Ça tombe bien, on aura Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation.
Oh. Non, mais parfait, quand il va vous dire, je pense que pour l'éducation...
Oui, il a un problème, le Hobbit.
Voilà, on verra bien ce que ça va donner. On tente des choses, c'est un laboratoire, en fait.
Nous sommes en mouvement perpétuel. Bonne émission.
Bonne journée à vous tous.
Salut. Vous écoutez RTL.